Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 68. Chapitre 2, verset 68. Esdras, chapitre 2, verset 68. Voilà, nous disons ceci. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les nétiniens s'établirent dans leur ville. Tout Israël habita dans ces villes. Amen. On va prier. Nous voulons, Père, être à l'écoute. Nous voulons te dire comme le jeune Samuel qui avait compris que c'était toi, Éternel, qui l'interpellais, de te dire « parle, car ton serviteur écoute ». Nous nous rendons compte qu'il y avait une relation entre ce jeune homme qui deviendra plus tard cet homme qui te servira avec fidélité. Mais il y avait cette relation où il recevait ta parole et en même temps tu recevais les siennes. Seigneur, et aucune de ces paroles ne tombait à terre. Nous voulons, Père, que tout ce que tu dis à notre cœur ne tombe à terre. Que nous n'en arrivions pas à fouler ta parole de nos pieds. Mais que ce soit ta parole qui nous prenne, qui nous saisisse, qui nous interpelle, qui nous fasse vivre de la vie d'en haut. Je prie pour que tout ce qui pourrait être un empêchement à la réception favorable des saintes écritures, du message de l'évangile ce matin puisse être retiré par ta main, par ton esprit, afin que Seigneur au sortir de ce lieu, ce qui soit retenu, c'est ta parole. Ce qui soit apprécié, c'est ta parole. Le reste, c'est secondaire. Mais ce qui est primordial, nous le savons, Seigneur, ce qui est prioritaire, c'est que tu parles. Et tu l'as fait, et tu le feras encore, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je poursuis avec ce que, par rapport à ce que nous avons vu la dernière fois concernant ce livre d'Esdras, je vais y rester un certain temps. Il y a encore le livre d'Esther, je n'ai pas terminé. J'y vais tranquillement, au fur et à mesure de ce que Dieu met sur mon cœur. Je voudrais vous dire tout simplement que la première partie, elle est sur le site. C'est enregistré, vous pouvez l'écouter. Mais je vais quand même faire un rappel très court, mais malgré tout, rappeler certaines choses. Le peuple d'Israël, après 70 années d'exil, revient à Jérusalem. Mais 70 ans, je le disais la dernière fois, c'est long. On est d'accord. Dans la vie d'un homme, 70 ans, c'est assez long. Et ils sont restés 70 ans. Et je rappelais que la grande majorité de ceux qui ont été amenés en exil 70 ans avant sont décédés. Pour beaucoup d'entre eux. D'autres sont très âgés. D'autres sont nés pendant l'exil. Et pour beaucoup de ceux qui sont nés pendant l'exil, ils ne savaient pas exactement ce qui avait pu réellement et profondément se passer. Ils en avaient entendu parler. Mais il y avait beaucoup de choses qui, eh bien, n'étaient pas profondément comprises. Il va arriver le moment où ils vont retourner en Israël, à Jérusalem. C'est le moment et la décision de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le temple va se reconstruire. Néhémie va également se lever, c'est au même moment, et il va rebâtir avec les hommes d'Israël les murailles et remettre en place les portes de la ville de Jérusalem. Le service va reprendre. La vie spirituelle va reprendre. La louange et l'adoration va de nouveau monter vers Dieu. Le temple va de nouveau être rempli de joie et de service. Nous sommes dans une période de réveil spirituel. Mais il y a eu une période de déclin où la lumière s'est un petit peu éteinte. Mais moi je bénis Dieu parce que nous sommes dans des temps où la lumière est allumée. Même s'il y en avait un qui avait dans son cœur la lumière éteinte, la lumière de Dieu brille. Le Seigneur ne va pas se laisser influencer par quelqu'un qui ne veut pas que la lumière brille. Ça, c'est son problème. Mais la lumière de Dieu brille. L'Église de Jésus-Christ, elle est bel et bien là. Et elle apporte quelque chose à notre pauvre société, malheureusement, où il y a tant d'angoisse, tant de peur, tant de cris, tant de craintes, tant de souffrances. L'homme ne peut rien pour l'homme. Dieu peut tout pour l'homme. Il suffit de mettre sa foi en lui. Et donc, ils vont revenir vers le réveil, vers la joie, le bonheur, vers le culte à l'Éternel. Le problème, c'est que, avec le temps qui est passé, j'en parlais la dernière fois, eh bien, il faut donner des preuves que l'on appartient au peuple d'Israël. Il faut donner des preuves qu'on faisait partie des sacrificateurs de la lignée d'Aaron. Il fallait donner des preuves. Et avec le temps qui est passé, les documents se sont perdus. Les documents, eh bien, ont été laissés de côté. Bref, il manquait des documents pour prouver que certains hommes faisaient partie de la lignée d'Aaron, étaient vraiment des sacrificateurs, parce qu'il fallait tout remettre en place pendant ce temps de réveil. Mais remettre en place, oui, mais selon Dieu. Et donc, nous avons, à ce sujet, par rapport aux sacrificateurs, vu que l'œuvre de Dieu est et sera toujours appelée à être structurée. L'Église n'est pas appelée à vivre dans le désordre, où chacun ferait ce qui lui semble bon. C'est pas ça l'Église. Je l'ai dit, je le rappelle. L'Église, elle a une structure. La structure se trouve dans les épîtres de Paul, dans le Nouveau Testament, pour l'Église. Pour Israël, elle se trouvait dans la structure voulue de Dieu, qui était la loi de Moïse. Mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Et en Jésus-Christ, nous sommes dans une nouvelle dispensation spirituelle où la colonne vertébrale de l'Église, elle est décrite dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, et nous devons nous y attacher. Il y a une structure. Il y a une bienséance. Il y a un ordre. Et elle a été et elle sera toujours ainsi selon les critères, bien sûr, je le dis encore, voulu du Seigneur, parce que avec Dieu, rien n'est fait au hasard. Il suffit de regarder tout ce que Dieu a créé. Il n'y a pas de hasard, tout est parfaitement bien en place. La question est de savoir si chacun d'entre nous est positionné spirituellement selon la volonté de Dieu pour être dans cette démarche de réveil dont a besoin. Peut-être certains au milieu de nous ont besoin de revenir vers le réveil spirituel, mais dont a besoin particulièrement notre monde. Parce qu'il est mort. Non ? Ce n'est pas les gilets jaunes d'hier qui montraient la vie. Hein ? Ça montrait la mort. Les chroniques d'une mort annoncée, je pourrais dire. C'est terrible. C'est triste. Mais nous prions le Seigneur pour ce monde. Et nous lui rendons témoignage. Une Église, dans la particularité qu'est la sienne, doit être rayonnante. Et je prie Dieu tous les matins pour que l'Église de Groyer soit rayonnante. Des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, et je m'aperçois que la lumière, elle brille de plus en plus. Donc il fallait que les sacrificateurs donnent une preuve. Idem pour nous, nous avons parlé de la conversion, ça se voit. Résolution, décision de se tourner vers Dieu pour être sauvé. Nous avons parlé de la régénération, ça se voit. nouvelle naissance, changement radical opéré dans les sentiments, les pensées, la volonté de l'homme qui est entré par la foi dans la communion avec Jésus-Christ. Et ce changement, il est produit par la parole, l'évangile et le Saint-Esprit dans l'homme pour lui donner une vie nouvelle. C'est tout cela la régénération. Alors notre être moral et spirituel est transformé. Notre être moral et spirituel, et ça se voit. Et puis la sanctification, également, c'est visible. Être sanctifié signifie être mis à part pour Dieu. La sanctification, c'est le fruit de la libération de la vieille nature qui nous poussait vers le péché. C'est l'abandon du vieil homme qui nous clouait dans les pièges de l'adversaire. Ce qui n'est que possible que par le sacrifice expiatoire de Jésus à la croix du calvaire. C'est ça la sanctification. Et tout cela, ça se voit. Quelqu'un qui me croiserait, quelqu'un qui vous croise, quelqu'un qui nous croise, doit voir la réalité d'une conversion, d'une régénération et d'une sanctification. Sinon, c'est que je ne suis pas né de nouveau. Je fréquente un lieu de culte, pardonnez du peu, mais je le fréquente. Et ça s'arrête là. L'Église, elle est organisée par le Seigneur avec ceux qui lui appartiennent parce qu'il a sauvé ceux et celles qui ont mis leur foi en lui, l'ont reçu comme sauveur et seigneur, comme rédempteur de leur âme, et ainsi, il a préparé des œuvres pour que ceux qui sont dans cette position spirituelle le servent. Amen. Je vois que ça vous donne une joie, une pêche. Amen. Ça, c'est les gens de Midi-Pyrénées. Je commence à vous connaître, c'est ma 6e année en Midi-Pyrénées. Sacrificateur, très important. Mais nous avons vu qu'il y avait aussi des lévites. Des lévites. Et rappelons, parce que peut-être quelqu'un se dit, mais c'était quoi les lévites ? Rappelons que les lévites avaient été mis à la disposition du service du sanctuaire ou du temple. À la place des premiers-nés de chaque famille épargnée, d'ailleurs, lors de la 10e plaie d'Égypte. Ils ont été mis en place pour servir aux côtés des sacrificateurs, les épauler, leur apporter l'aide dont ils ont besoin. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que nous, les pasteurs, on a besoin d'aide. Je rappelle, vous savez que nous, les pasteurs, on a besoin d'aide. Je n'ai pas dit moi, j'ai dit nous, les pasteurs. J'inclus tous mes collègues, les plus jeunes jusqu'aux plus âgés. On a besoin d'aide. Alors vous avez dit, oui, mais le Saint-Esprit vous aide, pasteur, alléluia. Non, pas seulement. Oui, je dis non, dans le sens pas seulement. Oui, il nous aide, mais on a besoin de vous. Vous imaginez l'Église qu'avec un pasteur ? C'est plus une Église. Il marche seul. Mais on est appelé à marcher ensemble. On est appelé à vivre ensemble notre foi. Et on est appelé à être à la place où Dieu nous veut. Dernièrement, un de nos collègues, lors d'une pastorale, a prêché sur l'onction du Saint-Esprit. Et nous rappelez ceci, il n'y a qu'une seule onction. Vous entendez peut-être, vous avez entendu qu'il y avait des multiples onctions, c'est une fausse doctrine ça. Hein. Il n'y a qu'une seule onction, l'onction du Saint-Esprit. Mais même s'il n'y a qu'une seule onction, on va recevoir plus ou moins en fonction de ce à quoi Dieu nous appelle. C'est la même onction, mais elle est dosée différemment en fonction de ce à quoi il nous appelle. Moi, je ne serais pas capable d'être ce que un collègue est. J'ai le ministère que j'ai reçu. Je ne l'envie pas. Je dis béni soit Dieu pour le ministère qu'il a reçu. C'est un évangéliste international. C'est que Dieu le bénisse et je prie pour eux. Et quand j'ai besoin de faire des missions d'évangélisation, bien je les invite. Parce qu'ils ont reçu l'onction. Nous avons tous reçu l'onction. Mais peut-être à des niveaux différents. C'est la parabole des talents, en définitive, quelque part. Un talent, deux talents, cinq talents. Celui qui en a reçu cinq, il avait la capacité de les faire fructifier. Si Jésus avait donné les cinq à celui à qui il en a donné un, enfin du moins le maître, ben, il aurait été débordé. Il a été débordé déjà avec un talent. Donc, imaginez avec cinq. Non, on va recevoir. Et là, il y a les sacrificateurs, mais il y a aussi les lévites. Et c'est un service important. Qu'est-ce que ça préfigure tout cela pour nous? Qu'est-ce que ça nous annonce, les lévites? En définitive, leur exemple que nous donne l'Écriture, les concernant, préfigure les éléments qui sont à la base, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, du service chrétien, qui est la conséquence logique du salut. Et il y a un texte qui m'a touché, je voudrais m'y arrêter quelques instants par rapport à ça, c'est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1 à 3. Il est écrit ceci, Romains 12, verset 1 à 3, « Je vous exhorte donc, frères, sœurs, bien sûr, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On lit la suite. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Par la grâce qui m'a été donnée, dit Paul, je dis à chacun de vous, Église de Groyer, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure, on y revient, la mesure, l'onction, les talents, selon la mesure de foi, même là, selon la mesure de foi que Dieu a distribuée, a départie à chacun d'entre nous. Je suis émerveillé de voir que Dieu déjà, bien sûr, d'une manière tout à fait parfaite, hein, par rapport à ce qu'il avait mis en place dans l'ancienne alliance, donc les sacrificateurs, et nous l'avons vu, et Apocalypse chapitre 1er, je vous rappelle cela, c'est dit, c'est enregistré, bien sûr, mais nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour Dieu le Père. Même vous, mes sœurs. J'aurais dit ça ailleurs, elles ont dit « Oui, alléluia !» Même vous, sacrificateur, j'aurais pu presque dire sacrificateur, la langue française. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs, mais en même temps, nous sommes aussi des lévites. Et je me rends compte que dans le texte que Paul met en évidence à l'église de Rome, quand il s'adresse aux chrétiens régénérés, convertis, sanctifiés, appartenant à Jésus, il leur dit « Mais je continue à vous encourager à offrir vos corps, à offrir. » Le Lévite offrait dans son service. Offrir, c'est mettre à la disposition ce que l'on a. Et ce verbe « offrir » est habituellement employé pour désigner la présentation, dans le contexte biblique, des victimes et offrandes, puisqu'on parle des lévites, du culte lévitique. Et ces victimes, ces offrandes, dans le culte lévitique, annonçaient, préfiguraient déjà, annonçaient prophétiquement l'œuvre de Jésus à la croix, pour le pardon de nos péchés. Mais voyez-vous, Jésus va, à un moment donné, dire ceci, « Rendez à César, ou rendez donc à César ce qui est à César. » Je vais l'actualiser. Ben, ils ont compris. Rendez à Macron ce qui est à Macron. Pardonnez. Hein. Mais c'est ça. C'était le gouverneur, enfin bref, c'était l'Empire romain, c'est le contexte. Donc, il faut nous rappeler qu'Israël était sous la domination romaine. Donc, Jésus est dans ce contexte-là, il vient de naître, il l'a grandi, il est dans ce contexte-là, et il va dire donc, rendez à celui qui dirige Israël, rendez-lui ce qui est à lui. Pensez un peu à nous aussi. Enfin bref. Rendez à César ce qui est à César. Mais Jésus va aller plus loin et il va dire, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez au monde ce qui lui appartient. L'impôt, les taxes. Bref, ce n'est pas toujours agréable. C'est même pénible, je vous l'accorde. Mais c'est comme cela. Il faut être soumis aux autorités, dit Paul. Mais si je suis soumis aux autorités qui viennent de Dieu, je dois être soumis à Dieu. Rendez à Dieu ce qu'est à Dieu. Et donc là, c'est la démarche lévitique. Je vais offrir quoi donc ? Je vais offrir mon cœur. Afin que le Seigneur puisse, l'ayant à sa disposition, mon cœur, parce que je lui laisse, je lui abandonne totalement, eh bien il le garde de toute forme d'orgueil, de toute forme de désobéissance, de toute forme, comme le Seigneur me l'a mis sur le cœur par rapport au don spirituel, de toute dureté. Je lisais l'histoire d'une femme d'une tribu, on appelle la tribu des Maoris, et elle était connue dans son village pour son caractère emporté, vindicatif, et d'ailleurs elle avait été surnommée dans son village, parmi les Maoris, la brune guerrière. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais un jour, tout a changé. Et la brune guerrière, elle connut l'évangile de Jésus-Christ. Elle a accepté Jésus-Christ. Elle s'est convertie, elle est passée par la nouvelle naissance, elle a été sanctifiée, alléluia. Et comme elle pouvait s'y attendre, elle fut l'objet des moqueries de la part de ses voisins, de ses voisines, alors qu'un jour elle traversait le village, une grosse pompe de terre lui a été lancé dessus, ça l'a atteint à la tête. Bref, ça n'a pas fait trop mal, mais enfin, ce n'était pas très agréable. La femme, cette femme en question, a ramassé calmement la pompe de terre et puis elle est partie sans rien dire. Elle était bel et bien transformée parce qu'auparavant, celle qui avait lancé la pompe de terre serait devenue de la purée. Et à l'automne, dans ce village des Maoris, il y avait la fête de la moisson, et particulièrement une fête organisée dans la maison du missionnaire. Et les indigènes se réunissaient là pour apporter les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de leur récolte, etc. Et la femme en question, l'ancienne brune guerrière, est venue aussi, elle a apporté un petit sac de pommes de terre. D'où venait-elle ? De celle qu'on lui avait lancée dans la rue, une seule pomme de terre, je vous le rappelle, mais cette pomme de terre, elle l'a plantée dans son jardin, et avec le temps qui est passé, ça a fait un sac de pommes de terre. Et le sac de pommes de terre, donc, elle l'a amené donc pour cette fête-là, dans, eh bien, l'habitation du missionnaire. Et quelle surprise pour ceux qui s'étaient moqués d'elle, quelle surprise pour eux. Mais mes frères et sœurs, n'est-ce pas une image de ce que le Seigneur est capable de faire ? Et là, normalement, je dois entendre « Oui !» Ben, je dis « Oui !» Parce qu'il sait tirer du bien là où il n'y a que du mal. Et c'est là qu'on voit la différence. Nous sommes entourés de méchanceté dans tous les domaines. Les enfants connaissent la méchanceté à l'école, parfois le harcèlement, qui peut pousser les enfants à des idées suicidaires. C'est terrible. Nous sommes entourés de méchanceté pour les plus grands au collège, pour d'autres peut-être au lycée, bref, pour d'autres sur leur lieu de travail, etc. Mais si nous parlons de nos problèmes au Seigneur, il nous délivrera. Et nos problèmes, il saura les transformer pour notre bien. Et ce que nous recevrons de Dieu va servir. C'est-à-dire, je lui ai offert mon cœur. Et il va se dégager une bénédiction. Je vais lui offrir mon corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Afin de rendre un culte qui lui soit agréable, pas seulement le dimanche matin, là je viens faire ma bonne action religieuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ça aboutit pas à grand chose. Je vous parle de tous les jours, mes frères et sœurs. C'est tous les jours que j'apporte un culte à Dieu. C'est lui le premier que je sers. C'est lui le premier que j'adore. C'est lui et lui seul que je veux célébrer de tout mon cœur. Lui rendre un culte qui lui soit agréable. Être reconnaissant de ce que nous ne nous appartenons plus, mais que nous avons été rachetés au prix de l'œuvre de la croix, un grand prix, lui offrir notre esprit, afin qu'il nous communique sans cesse sa vie, la vie de Dieu. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa vie, sa nature, sa capacité, j'ai ce qui vient du ciel. C'est pas quelque chose que je m'efforce de tirer d'en bas parce que ça servira à rien. Mais je m'efforce d'attraper ce qui vient d'en haut en lui offrant mon esprit, mon cœur, toute chose, mon corps, mon être tout entier, afin qu'il soit en mesure de me révéler les merveilleux projets qu'il a pour moi sur cette terre. Dieu a des projets pour toi. Je m'adresse aux adolescents que nous avons eus lors de la réunion, première réunion d'hier, avec mon épouse. Que Dieu les bénisse. L'évangile leur a été prêché. Et j'espère qu'ils n'ont pas oublié, on leur a parlé de la véritable amitié. T'en souviens-toi? T'as marqué ça, hein? Alléluia. Et donc, le Seigneur veut vous amener, vous les adolescents, vous, ceux qui sont les jeunes, un peu plus âgés, ceux qui sont au milieu. Je dis au milieu, c'est la trentaine, la quarantaine, hein. Ceux qui sont de ma génération, plus proche de la retraite, ceux qui sont à la retraite, il y en a quelques-uns ce matin, levez la main pour voir. Oh, tous ces retraités à Groyer, Dieu soit loué. Ah là là, des futurs serviteurs et servantes de l'Éternel, ils ont du temps. Ils sont retraités, mais pas pressés, mais ils sont retraités plus occupés qu'avant. Je vais les occuper, que le Seigneur les bénisse. Oui, il a des projets pour vous. Qu'il puisse vous dévoiler, en quelque sorte, entre guillemets, le rêve. Qu'il nourrit pour vous les moyens qu'il a prévus pour que vous le réalisiez, afin de se glorifier dans votre vie pleinement. Et ce sacrifice, nous l'avons noté, il est qualifié de vivant. Nous ne sommes pas morts, nous l'étions à cause du péché autrefois, mais nous sommes devenus vivants. Alléluia. Nous sommes devenus agréables à Dieu, une odeur agréable. Amen. Je suis convaincu que ce matin, quand vous vous êtes préparés, vous avez sorti le parfum le plus cher. Mais c'est important d'avoir un bon parfum spirituel. Le Seigneur se plaît à ce parfum-là. Souvenez-vous que quand il y a eu donc le déluge et que l'eau s'est retirée et qu'ils vont pouvoir mettre pied à terre, Noé et sa famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première des choses qu'ils font, c'est d'offrir un sacrifice. Et la Bible nous dit que l'Éternel a senti l'odeur, une bonne odeur, une odeur agréable. Quand il voit Jésus, c'est bon. L'œuvre de la croix, c'est bon. Amen. C'est ce que Dieu le Père voulait pour le salut de l'humanité, de ceux qui vont croire en lui. Mais en même temps, nous qui sommes venus à Christ, nous devons être des sacrifices de bonne odeur. Dans ce que nous lui apportons, oui, notre cœur, oui, ma vie, oui, mon temps, oui, Seigneur, je suis dans le processus, ou peut-être même déjà dans le réveil spirituel. Je dirais, culte ensuite raisonnable s'en dégage, parce que ce culte est conforme à ce que, suivant une estimation rationnelle et par une conclusion, je dirais, logique, mes frères et sœurs, les chrétiens doivent à Dieu qui les a aimés et sauvés, et qui les a aimés le premier, puisse lui apporter ce culte raisonnable. Ensuite, il est question des chantres. Les chantres. Matthieu, il y a ton nom. Les chantres. Valérie, Pascal, que Dieu fasse qu'il y en ait d'autres qui se lèvent. La déportation avait fait cesser les chants, mes frères et sœurs. L'exil avait fait cesser les chants, car la joie avait disparu. Il suffit d'afficher le psaume 137, si tu peux le faire, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est écrit. Ils sont à Babylone, ils sont en exil. Qu'est-ce qu'ils font sur les bords des fleuves de Babylone? Ils pleurent. Ils pleurent. Quand on est en exil, quand on est loin de Dieu, ce n'est pas la joie. Quand on est encore tenu par le péché, c'est pas la joie. On peut se fabriquer une petite joie, mais elle va pas tenir longtemps. Hein. Et ça, c'était terrible pour eux. Nous étions assis, donc il y avait plus de mouvement. On pleurait, on se souvenait de Jérusalem, on se souvenait du culte d'autrefois, on se souvenait de la joie d'autrefois. Il y a des gens qui sont dans nos églises des nostalgiques, radio nostalgie. Je pourrais tomber dans ce piège de la nostalgie. Moi, j'ai connu, lors de ma conversion, il y a 33 ans de cela, des moments de réveil dans l'église où nous étions, à Montpellier. N'est-ce pas, Pascal? Et s'il y a des Montpelliérains, parce que je sais qu'on a gardé contact, certains écoutent les messages, on l'a su il n'y a pas longtemps, à Montpellier, j'écoute les messages de l'église de Groyer. Tu te rends compte? À Montpellier. David. Mais pour les plus anciens, comment ils s'en souviennent? Très certainement. Je pourrais être nostalgique et dire « Ouah, avant c'était bien. J'aime pas ça. Moi je m'en moque d'avant. Ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et en même temps c'est demain. » Et on voit que la joie avait disparu. Mais le retour vers Jérusalem, le retour dans le réveil, le retour vers la maison de Dieu, le retour, alléluia, dans ce lieu de bénédiction, Jérusalem, Yerushalayim, en hébreu, c'est-à-dire le fondement de la paix. Alors là, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Je viens vers la paix, je reviens vers la joie, je reviens dans la maison de l'Éternel, je reviens vers le service, je reviens vers ce à quoi réellement je suis appelé en Jésus-Christ. C'est là ma place, c'est là ma joie. Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel le mardi soir. » Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel à Groyer le vendredi soir. » Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel le dimanche matin. » Je vous taquine, hein. Je perds pas le nord. Surtout le sud. Le retour vers Jérusalem nécessitait que le chant, avec ce qu'il comporte comme enseignement, eh bien, revienne. Éphésiens chapitre 5, verset 19, il est écrit ceci. Paul dit, entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes, on l'a fait tout à l'heure, on va continuer à le faire, par des cantiques spirituels, chantant, mes frères et sœurs, chantant et célébrant avec une toute partie de votre cœur. Qu'est-ce qui a marqué? De tout votre cœur. Quand on dit à quelqu'un, je t'aime de tout mon cœur. Vous comprenez quand même ce que ça veut dire. Tu t'imagines que ton mari vienne te voir et te dit, je t'aime un tout petit peu. Et la femme, pareil. Ça ne vous ferait pas plaisir. Hein? Ah bon? Tu m'aimes comme petit peu? Non? Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi. Vous savez, moi quand j'étais gosse, on était un petit, vous savez, c'est des petites amourettes de jeunesse, hein, avec des copines de l'école, du collège, bref. Et je me rappelle, ça m'est arrivé une fois, il me voit venir, ça me rappelle, nous étions, c'était au printemps, on était dans la nature et là, on batifolait, etc. Et puis, excusez-moi, on m'a dit. Et puis, j'ai trouvé une marguerite. Ah ouais, marguerite. Oh, marguerite. Et donc, on tirait les. Je vois que vous avez fait comme moi. Ils rient tous. Ceux qui m'écoutent, prêcher là, qu'ils entendent, là, sur le site, hein, qui vont entendre le message. Eh bien, je leur dis, ils rient tous quand je raconte ça, mais en définitive, ils ont fait tous la même chose, pratiquement. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ouais, Michel, dis-le à Josiane. prenez la marguerite et on a enlevé les pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout. Je t'aime un peu. Et quand je sentais que ça n'arrivait pas du tout, et hop, je sautais. Elle me dit, t'as oublié quelque chose. Ne crois pas la marguerite. Crois mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Lui donner tout notre cœur. Chantons et célébrons de tout votre cœur. C'est ça, un chantre. Les louanges, bien sûr, du Seigneur. C'est un retour dans le réveil, la reconstruction. Tout est remis à l'honneur. Le chant, bien sûr, à cause de son importance pour le culte offert à Dieu. Nous aimons chanter dans nos temps de réunion. Lire le psaume 126, tu peux l'afficher ? Ils avaient suspendu même les instruments. Mais là, quand l'Éternel, psaume 126, c'est différent, hein, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, comme des gens qui sont en train de faire un songe, qui croient rêver. Ça vous est arrivé d'être dans des situations tellement magnifiques, tellement merveilleuses, une belle ambiance, un merveilleux contexte. Vous dites, mais c'est pas possible, pince-moi, je suis en train de rêver. Vous l'avez fait ça ? Hein ? Moi, quand j'ai rencontré ma femme, je me suis pincé parce que je fais un rêve. Oui, un beau rêve, bien sûr. Mais là, c'est ça que ça veut dire. On a l'impression de faire un rêve. On a l'impression que c'est pas vrai. C'est pas possible. Moi, il m'arrive des nuits de rêver de choses extraordinaires. Je dirais pas quoi. Et je me réveille, je dis, mince, il faut que je me rendorme parce que j'ai pas fini. C'était tellement bien. Vous riez, mais ça a dû vous arriver aussi. Je le vois dans vos yeux. C'était tellement bien. Mes frères et sœurs, imaginez. 70 ans de captivité. Ils reviennent. Mais ils reviennent. Ils savent que c'est vrai. Mais c'est comme un rêve, en définitive. Mais c'est la vérité. Mes frères et sœurs, je suis au milieu de vous. Et ensemble, on est là. Dieu nous bénit. On pourrait dire, c'est comme un rêve. Non, c'est la réalité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et tous les événements qu'ils voient là s'accomplir devant leurs yeux sont extraordinaires. Ils sont inespérés. Notre bouche, il s'est écrit, notre bouche était pleine de joie, remplie de cris de joie. Notre langue, des chants d'allégresse. Alléluia. L'Éternel a fait pour eux, les nations disent, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et moi, j'ai envie que Groyer, tout Groyer, etc., bref, puisse dire à Groyer, eh bien, l'Éternel, là, dans cette église, l'Éternel fait de grandes choses. Que Dieu puisse permettre que dans votre famille, on dise, dans ta vie, Dieu vraiment fait de grandes choses. Que ça se voit, que ça se remarque, que ça se sente. De grandes choses. Dieu agit grandement à l'égard de son peuple. Alléluia. C'est vrai qu'une petite partie du peuple seulement était revenue sous la direction Esdras 2, 64, sous la direction de Zorobabel. Mais le psalmiste demande à l'Éternel de ramener ceux qui en grand nombre sont restés au pays de la captivité. Et puis, il y a les portiers. Je vais arriver à la fin du message. De cette autre partie d'Esdras, on n'a pas fini, les portiers. Leur fonction, celle de tous les Lévites, on faisait partie, était très variée. Leur travail, c'était de veiller humblement aussi bien sur les vases, les ustensiles de la maison de Dieu, que sur les sacrifices offerts, la nourriture également, l'accès à la maison de Dieu, au temple de l'Éternel. C'était leur travail. C'était important, un portier. C'est pas un portier comme nous, on peut l'entendre dans notre société. Il ouvre la porte, bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir. Non. C'est un service important sur le plan spirituel. Et ils ont toujours, aujourd'hui, la même importance dans l'assemblée de Dieu. Prévoir de garder les portes de la maison de Dieu qui est reconstruite, je crois que c'est une sage précaution qui est encore valable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne parle pas du bâtiment, on se comprend. Je parle de tout ce qui concerne le service. Et j'aime beaucoup ce texte, si tu peux l'afficher. 1 Chronique, chapitre 9, verset 19, et puis après verset 23 et 24. Verset 19 déjà, voilà, on le lit. Hein. Shalum, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, Et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel. Je crois que c'est là qu'il faut que tu sautes quelques versets. Voilà, merci. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Écoutez bien et regardez. Il y avait des portiers aux quatre vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune brèche. Tout était protégé. Tout était gardé. Il y avait de la vigilance partout, aux quatre coins. Et, mes frères et sœurs, veillons à ce qu'il y ait la même attitude. Et ceci étant dit, nous sommes bien sûr appelés à veiller les uns sur les autres, à nous exciter à l'amour, d'autant plus que le jour du Seigneur approche, dit l'Écriture. Et ce verbe, veiller, est important. Et je dirais que ça veut dire également être attentif, prêter l'oreille, garder, écarter, peut-être éloigner, considérer. Il y a des choses à écarter, il y a des choses à éloigner. Le Seigneur Jésus a lui-même mis fortement l'accent sur la nécessité, ou sur cette nécessité, bien sûr, de veiller. Matthieu 24, Luc 12, Matthieu 26, veillez à ne pas laisser le voleur percer votre maison. La maison, c'est votre maison avec votre famille, mais c'est surtout votre cœur. Veillez à cause de la soudaineté de son retour, du retour de Jésus. Ça va. Quand ça va arriver, ça sera soudain. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et il y a quelques raisons à cette nécessité. Je les cite très rapidement, et je vais conclure avec les Néthiniens, ça sera très court. Raison à cette nécessité, c'est à cause, premièrement, de la subtilité de la tentation. Deuxièmement, c'est à cause de l'attrait du péché. Troisièmement, c'est à cause de la faiblesse de notre chair. Quatrièmement, c'est à cause de la séduction des fausses doctrines. Cinquièmement, c'est à cause de la ruse des pièges du diable. Et puis pour terminer, c'est à cause des convoitises qui existent dans le monde. Et je conclue avec les Néthiniens, très simplement. Les Néthiniens, ils étaient chargés des fonctions subalternes dans le service du sanctuaire. Subalternes. Mais leur place se justifie pleinement parce que, quelque part, mes frères et sœurs, c'est cela. Et c'est comme cela que Dieu voit les choses. Il n'y a, dans l'œuvre de Dieu, aucun service trop petit pour être facultatif. Je dirais que servir nous est aussi grandement bénéfique, il n'y a rien de plus merveilleux que de servir le Seigneur dans l'Église. Si je ne sers pas Dieu dans cette église, il y a un problème, mes frères et sœurs, réfléchissez. Vous avez quelque chose à faire, il y a un service qui vous attend. Et que vous allez pouvoir faire en fonction de vos possibilités. Et de la volonté de Dieu. Je dirais que servir ouvre la porte à de grandes bénédictions dans nos vies. C'est une joie de servir. Vous savez, moi en tant que pasteur, nous en tant que pasteur, c'est pas toujours évident. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Mais quel bonheur de servir Dieu. Dieu est attentif à chacune de nos actions pour lui. De là-haut, il vous regarde. Et il se réjouit de votre investissement pour lui. Ce n'est pas pour moi que vous le faites. Parce que vous n'êtes pas là, moi je le fais quand même, avec les frères et sœurs. Mais si vous le faites, il se réjouit, le Seigneur. Et lorsque nous le servons, qu'est-ce qu'il fait? Il va déverser sa faveur dans nos vies ici-bas. Il nous prépare des richesses incorruptibles. Dans le monde à venir, dans le ciel, dans le royaume des cieux, où il pourra nous dire, entre bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître, mes frères et sœurs, soyons donc ce matin encouragés, continuons à le servir fidèlement, même le plus petit service pour Dieu reste dans les annales du ciel, pour l'éternité, alléluia. Ne cherchons pas à faire ce qui est peut-être en vue, cherchons plutôt à faire ce que Dieu voit. C'est le Seigneur est reconnaissant, et il le montrera. Et il le montre déjà maintenant. Gloire à Dieu. Paul dira, Galates 1.10, et je termine là-dessus. Galates 1.10, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous voulons te bénir, ô Éternel. Amen. Nous voulons te bénir. Je veux te bénir. Nous voulons te bénir ce matin. Pour ce que tu as déjà fait. Nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, au travers de ta parole, mais aussi de ce moment, de ce repas, de ce saint repas, de cette sainte cène qui nous rappelle ton œuvre à la croix, nous voulons te bénir, autant que toi tu nous bénis. Nous voulons être disponibles, te servir là, à notre place, avec l'onction qui vient du ciel. Nous voulons, Seigneur, être de ceux qui te disent « prends ma vie, Seigneur, sers-toi de moi, fais comme tu voudras. Seigneur, je veux la bénédiction de l'Église locale. Et cette bénédiction, je la réclame pour la ville où je te sers. Je la réclame pour la maison où je vis. Je la réclame pour le département qui est le mien, la région, mon pays qui est le mien. Seigneur, ce matin, pendant ce temps encore de louange, d'adoration avec ces chants que nous allons interpréter, Seigneur, avec ces moments, Père, que nous vivons encore maintenant, que tu puisses encore agir. Ta parole est vivante, dans le nom de Jésus. Amen.